Je suis Mathieu Faury, je travaille tous les médiums, mais en particulier la sculpture. Et j'ai plusieurs thèmes de prédilection, notamment ce que j'ai appelé le bestiaire darwinien, et dont on voit ici un représentant. Il s'agit d'une sculpture qui représente un humain avec une tête de gorille. Elle est faite en résine, elle a un aspect métallisé, elle est assez lisse et le personnage a un grand sourire. Il a les mains qui sont réunies en bas de son ventre, l'une de ses mains est ouverte, prête à recevoir ou à donner quelque chose. Enfin, son titre c'est l'Illuminer et il représente un personnage qui est en chemin vers l'illumination, vers une sorte de ravissement spirituel. Voilà.
Donc c'est une œuvre hybride, on peut dire ça, enfin en termes esthétiques aussi.
Absolument, esthétiquement, il est composé d'un corps d'homme et d'une tête de gorille, donc il est totalement hybride. Et c'est même dans l'ADN même de l'œuvre, c'est-à-dire que c'est cette double personnalité, enfin il y en a peut-être même encore plus, mais en tout cas il a cette double composante humaine-animal, gorille-humain, effectivement là il est en résonance avec le thème de l'exposition.
Alors c'est vrai que La Fontaine avait personnifié des animaux, enfin il y avait un rapport entre l'homme et l'animal en termes de symbolique, de situation. Vous êtes parti d'un conte de Chine et qui est la pérégrination vers l'Ouest. Est-ce que cet univers vous a surpris au départ de ce conte, cette légende ?
Je pourrais pas dire que j'ai été surpris, je dirais que j'ai été... ce qui m'a surpris, c'est d'y trouver beaucoup d'ingrédients qu'on trouve dans tous les contes. Mais je l'ai lu avec des lunettes bien particulières, parce que j'étais déjà familier du travail de Bettelheim sur l'analyse des contes de fées, et par conséquent, ça m'a permis de voir quelles étaient dans ce conte-là des constantes qu'on retrouvait dans beaucoup de contes, et ça m'a aidé à y voir des choses... que j'aurais vu ailleurs, mais qui m'intéressait. Et en fait, par rapport au rapport entre l'humain et l'animal dont on est en train de parler ici, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer, alors là, avec l'humour et un regard assez bienveillant, mais c'est de rappeler que dans l'humain, il y a beaucoup d'inhumanité et que chez l'animal, au contraire, il y a beaucoup d'humanité. En fait, c'est ça aussi, c'est une dimension qui est présente dans mon travail, c'est de changer le regard qu'on a sur l'animal et aussi sur l'humain, et donc ça fait partie du regard que j'ai et des éléments que je mets dans ce travail artistique.
C'est vrai que dans cette œuvre, la pérégrination vers l'Ouest, cette histoire, finalement, les enfants qui regardent ça maintenant aussi à la télé, il y a des séries là-dessus, trouvent les animaux finalement, ça devient leur univers, c'est presque intégré dans leur vie avec ces feuilletons-là.
Oui, alors je ne les connais pas si bien, mais en tout cas ce que l'on sait, c'est que les enfants parlent avec les animaux, même avec leurs jouets, parce que à cet âge-là, ce sont des personnes. C'est plus tard qu'on perd cette capacité à la fois d'émerveillement, mais aussi de ce côté visionnaire. Donc, oui, c'est vrai que l'art permet aussi de retrouver ça, certainement. Et donc, la manière dont le conte a été réutilisé dans les séries, dans les dessins animés, je pense qu'utilise aussi cette ficelle-là pour rétablir le contact avec la nature.
Vous vous interrogez plus sur l'homme, Mathieu Faury, ou sur l'animal ?
Alors, je dirais que dans une optique darwinienne, je ne fais pas de frontières. Je connais les limites de chacun, mais je m'intéresse à la continuité qu'il y a entre l'animal, enfin les animaux, parce qu'ils sont tous différents, mais entre les animaux et les humains, et c'est cette continuité-là sur laquelle je travaille et qui m'intéresse. En fait, je pense que quand on enlève cette muraille entre l'humain et l'animal, on va vers plus de respect pour le vivant en règle générale et pour les animaux, même pour les humains d'ailleurs.
On est dans une époque qui évolue vers le trans, transgression peut-être, mais aussi transhumanisme, transgenre, etc. C'est quelque chose d'assez récent.
Alors, c'est vrai, je partage votre point de vue. On est dans une époque qui est trans. Pas mal de mes sculptures sont imprégnées de cette vision-là, mais sans jugement. C'est-à-dire, ayant pris conscience de ça, je trouve que l'amener dans l'art, c'est voir une sorte de transréalité qu'on peut ne pas voir d'habitude ou qu'on souhaite ne pas voir. Après, oui, c'est ça, on passe du surréalisme au transréalisme parce que le monde dans lequel nous vivons est trans, mais aussi parfois modifié d'une manière extrêmement brutale par des apprentis sorciers. Là, ça reste de l'art, donc ça reste encore poétique et parfois peut-être provocateur, mais ça ne peut faire que du bien.
Un autre travail que vous avez réalisé représente un homme enceint. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, là.
Absolument, effectivement, c'était une illustration de de ce que vous dites sur le fait que nous vivons dans une époque où trans, alors cette représentation d'un homme enceint, aujourd'hui, elle est la représentation de quelque chose qui a existé. Toutefois, le fantasme d'un homme enceint ou le fantasme d'un être qui passe la frontière du genre et qui change de sexe, c'est quelque chose qui est présent dans les contes déjà depuis toujours. Et en fait, ça, c'est un grand voyage. Aujourd'hui, il est possible. Avant, il était fantasmé ou il était de l'ordre de la mythologie. C'est quelque chose, je pense, qui parle profondément à notre inconscient.
Voilà, donc c'est vrai que la mythologie a eu son heure de gloire. Est-ce qu'on revit une nouvelle mythologie, peut-être plus qui est rendue plus réaliste ou plus existante?
On manque peut-être de recul pour pouvoir vraiment analyser l'époque dans laquelle on vit. Je pense qu'on est face à elle un peu comme dans un kaléidoscope où on a des tonnes d'images qui nous sont projetées, qui nous sont assénées. Certaines sont plus fortes, certaines vont nous effrayer ou vont nous fasciner, ou parfois les deux à la fois, parce que c'est vrai qu'il y a certaines représentations comme l'homme enceint, ça peut faire les deux à la fois. Et ça dépend des moments, en fait.
Donc, aujourd'hui, bien, le moment, c'est à Lens. Et vous venez de quelle région ?
D'Avignon. Je viens d'Avignon, oui, tout à fait.
Donc vous avez ramené cette œuvre ici, personnellement,
hein ? Ah, oui, exactement. La semaine dernière, en camion, je l'ai ramenée d'Avignon. Et puis là, je suis venu pour le vernissage.
Voilà, donc la matière ?
Alors, c'est d'abord, je l'ai modelé en argile. J'avais même un modèle qui était devant moi pour pouvoir, un modèle humain, je tiens à le préciser, pour pouvoir faire quelque chose d'assez réaliste au niveau du corps. Après, le gorille, bon là, c'était quelque chose d'imaginaire. Et donc, modelé, ensuite je l'ai moulé, j'ai fait un tirage en résine. Donc voilà, c'est une résine stratifiée. Et elle a une belle laque métallisée qui brouille un peu les... On sait pas trop ce que c'est finalement, on pourrait croire que c'est du métal parce que
donc cette œuvre, elle est, enfin, si on peut imaginer un animal réel, elle serait à peu près aux deux tiers ou la moitié de la taille
D'un humain, oui, tout à fait. Ce serait un grand enfant, un ado, ouais, c'est ça. Oui, il est assez gracile, il est assez fin, je dirais assez gracieux aussi. Il est, je pense, debout. Il devrait faire dans les 1,50 m.
voilà. Donc, sinon, votre travail, on l'a un peu défini. Est-ce que vous avez des projets Vous continuez sur cette ligne ou vous développez des projets différents?
Alors, je travaille souvent plusieurs projets à la fois, mais l'année dernière, j'ai terminé donc un projet d'une sculpture de gorille en pierre. Donc, c'était dans une pierre marbrière qui venait d'une carrière du sud de la France, qui est une carrière qui se situe à Tavel. Et donc, ça, c'était un gros projet. Et en travaillant sur ce projet, j'ai vraiment réfléchi sur le lien très fort qui existe entre l'animal et le monde végétal dans lequel il évolue, et là, donc, en particulier, la forêt. Et par conséquent, les arbres sont devenus des personnages très importants dans mon travail actuel. Donc, les gorilles, ce sont un petit peu... il y en a un petit peu moins. Et je fais beaucoup de sculptures qui rendent la texture et le grain des écorces. Voilà. Donc je suis passé à une création d'andromorphe, donc qui reprend la forme des arbres.
Donc curieusement, ce mi-homme, mi-gorille est dans cette exposition ici, donc à la Banque de France, placé devant une œuvre assez grande, hein, un triptyque, donc de Rachel Renaud. Et là, bien, j'allais dire que quelque part, alors c'est pas du tout le même style, mais on ressent une correspondance entre l'homme, l'animal et le passage vers l'animal et le végétal en nombre, on va dire, qui occupe l'espace plus, de manière plus importante évidemment que dans nos villes, mais peut-être une part de nature préservée et très symbolisée. Là, on peut pas dire que ce soit une représentation réelle puisqu'on a des personnages complètement imaginaires. Et une belle créativité d'ailleurs, hein, et dans un univers un peu ludique, où on a même un petit bout de personnage humain, mais qui ne prend pas une importance considérable dans l'œuvre. Hein.
Alors là, il faudrait demander à Rachel de commenter son travail, mais c'est vrai que personnellement, je trouve qu'il y a effectivement un très bon écho entre les deux œuvres. Pour moi, c'est lié à l'onirisme. C'est comme une nature imaginée. Et lui, le personnage donc de l'illuminé, c'est aussi un personnage qui est en train de s'imaginer lui-même, en fait. Parce que c'est comme quelqu'un qui se dit, tiens, aujourd'hui, si j'avais une tête de gorille, je ressemblerais à ça. Et là, face à ce tableau, on pourrait se dire, tiens, aujourd'hui, si j'étais dans une forêt, le ciel serait violet, les arbres seraient vert fluo, et il y aurait des animaux partout. Donc il y a quelque chose de fantasmatique, d'onirique et de très beau, je pense.
On est à un moment où on critique beaucoup les zoos, ces endroits où on enferme des animaux. Est-ce qu'on peut imaginer un espace où les créateurs, hein, les artistes, viendraient intégrer leur monde fantastique, peut-être en mettant leurs œuvres en correspondance, dans un univers qui représente l'animal sans que l'animal soit captif?
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans nos relations avec les animaux et à tous les degrés, tous les jours, chacun pourrait changer des petites choses et qui bénéficieraient aux animaux. Bon, les zoos, c'est vrai qu'on peut les critiquer. Ils ne sont pas tous à mettre sur le même plan, parce qu'en fait, voilà, y a certains zoos sont des réserves, d'autres sont des cages. Et puis aujourd'hui, certains jouent un rôle dans la conservation des espèces en voie de disparition. Oui, c'est vrai, l'idéal, ce serait que les animaux sauvages restent dans leur habitat naturel.
Et donc l'idée de travailler ensemble sur une maison qui serait une sorte de zoo visitable avec des gens qui viennent voir des œuvres plus que des animaux réels, mais qui symbolise justement un univers naturel avec des vivants.
Est-ce que ça ressemblerait pas à un musée?
Alors, est-ce que ça existe, un musée de ce type?
Je cherche. Je connais des zoos dans lesquels il y a des œuvres d'art, mais bon, souvent, c'est pas très intéressant. Je trouve que quand il y a des animaux vivants dans les musées, souvent, c'est pas très bienvenu. Et je connais, il y a quand même... ça existe, en fait. Il y a des artistes qui ont utilisé des animaux vivants dans des performances. C'est pas toujours, on va dire...
Le bon goût.
Ouais, exactement. Ça fonctionne pas très bien. Et puis malheureusement, il y a aussi beaucoup d'artistes qui se servent d'animaux morts. Ça, je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire à ce niveau-là. J'espère de moins en moins, mais dans l'art contemporain, on voit beaucoup d'animaux morts sous forme de taxidermie. Et ça effectivement pourrait évoluer. Après, des sculptures d'animaux dans les zoos, oui, certainement, ça se développera. Oui. En fait, un artiste travaillant aujourd'hui, comme c'est mon cas, sur le thème de l'animal, a accès à une documentation qu'aucun autre artiste à une autre époque n'a eue. Mm-hmm. Par exemple, Frémiet, qui est l'auteur d'une sculpture qui représente un gorille enlevant une jeune femme dans la brousse, il est également l'auteur d'un orang-outan qui est en train d'étrangler un sauvage à Bornéo, qui se trouve dans l'entrée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dans l'entrée de la galerie d'anatomie comparée. Donc à cette époque-là, en fait, les gorilles, les orang-outans, on les connaissait tellement pas que, évidemment, ils étaient d'abord, on avait du mal à les représenter. Ils étaient pas très réalistes. Et ensuite, on ne connaissait pas leur comportement et on les assimilait à vraiment des monstres. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y avait un quiproquo sur leur comportement et que par conséquent, on pensait que c'était des bêtes sauvages qui attaquaient et que les victimes, c'était les humains. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'est le contraire. C'est les humains qui attaquent et les bêtes sauvages, enfin les bêtes, les gorilles, les orang-outans sont les victimes des activités humaines. Et en plus de ça, ça c'est l'éthologie qui a permis de rassembler beaucoup d'informations. Diane Fossès, son travail au Rwanda, et puis tous les autres primatologues ou tous les chercheurs qui ont travaillé en Afrique. Également toute la documentation qui est issue des zoos, parce qu'en fait là on voit les animaux de très près. Donc moi personnellement je me suis servi de vidéos qui ont été tournées dans les zoos, de photos que j'ai moi-même prises dans des zoos. Et donc ça oriente différemment le travail d'un artiste d'aujourd'hui. Et ça, c'est, je pense, à souligner parce que ça permet de mettre en perspective les œuvres animalières du 19e siècle, par exemple, et les œuvres animalières actuelles, qui d'ailleurs sont, je pense, souvent moins réalistes parce que maintenant qu'on a accès à une telle documentation, l'enjeu n'est pas tant d'arriver à représenter l'animal dans l'art que d'arriver à créer des liens entre l'homme et l'animal. Et donc c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de sculptures hybrides humain-animal dans l'art contemporain aujourd'hui. C'est quand même vraiment quelque chose qui est... Il y a un courant, en fait. Il y a vraiment un courant.
Voilà, merci de le porter en tout cas.
Merci à vous.
Donc Mathieu Faury, prochaine exposition au-delà de Lens.
Restez connectés à mon site et vous aurez bientôt des informations.